Bonjour à tous et à chacun. Je vous invite à lire avec moi deux passages. Le premier se trouve dans l'Ancien Testament, dans les livres du prophète Ésaïe, au chapitre 40. Nous lirons quelques versets à partir du 27e. Ésaïe 40, 27. Pourquoi donc, ô Jacob, parlerais-tu ainsi? Et pourquoi dirais-tu, ô Israël, mon sort échappe à l'Éternel et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit? Ne le sais-tu donc pas et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est las, et il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Les jeunes gens se lassent et s'épuisent. Et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Nous lisons un deuxième passage. Dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, et nous lisons au chapitre 9 à partir du verset 19. Car bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, dit l'apôtre Paul, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. Avec ceux qui ne sont pas sous ce régime, je vis comme n'étant pas non plus sous ce régime, afin de gagner au Christ ceux qui ne connaissent pas la loi. Bien entendu, cela ne veut pas dire que je ne me soumets pas à la loi de Dieu. Au contraire, je vis selon la loi du Christ. Dans mes relations avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme l'un d'eux afin de les gagner. C'est ainsi que je me fais tout à tous afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Or, tout cela, je le fais pour la cause de la bonne nouvelle, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte la bonne nouvelle. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix? Vous donc, courez comme lui pour gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous, nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Car je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Voilà pour les lectures bibliques. Les jeux du stade étaient très prisés par les Grecs. Tous les 2 ans, se célébraient près de Corinthe les jeux isthmiques. Semblables aux autres jeux publics de la Grèce, les jeux olympiques et les jeux néméens, ils comprenaient 5 exercices. Le saut, le lancer du disque, la course, le pugilat et la lutte. La Grèce entière assistait à ces épreuves avec le plus ardent intérêt et l'athlète proclamé vainqueur était l'objet de l'admiration et des hommages du peuple tout entier. L'apôtre Paul a passé 18 mois à Corinthe pour y annoncer l'Évangile, de l'année 50 à l'année 52. Détruite en 146 avant Jésus-Christ, la ville de Corinthe a été reconstruite 100 ans plus tard par César. Corinthe était une ville neuve qui devait sa prospérité extraordinaire à sa situation géographique et à ses 2 ports, l'un s'ancré sur la mer Égée, golfe de Saronique, l'autre léché sur l'Adriatique, golfe de Corinthe. Cette ville possédait les caractéristiques qui marquent la vie des grands ports, population très mêlée, où toutes les races, toutes les religions se côtoient, vie facile de luxe et de débauche pour les matelots avides de plaisir après des mois de navigation. Le culte principal de Corinthe était le culte d'Aphrodite, à laquelle était consacré un temple dont le personnel se livrait à la prostitution sacrée. Ajoutons enfin que cette cité cosmopolite était un centre intellectuel où toutes les familles d'esprit étaient représentées. Au IIe siècle, un rhéteur pouvait féliciter Corinthe pour le nombre de ses écoles, de ses philosophes et de ses lettrés que l'on trouvait à chaque coin de rue. C'était également un centre religieux où les cultes à mystère de l'Orient exerçaient une indiscutable fascination. Par sa composition, la communauté chrétienne rassemblée par la prédication de l'apôtre Paul était le reflet fidèle de la cité de Corinthe. Ces chrétiens formaient une communauté vivante et fervente, mais qui restait très exposée aux dangers de la corruption de la vie ambiante. Morale sexuelle dissolue, querelles, disputes, luttes intestines, séduction de la sagesse philosophique d'origine païenne qui s'introduisait dans l'Église revêtue d'un vernis chrétien superficiel et qui pervertissait les certitudes fondamentales de la foi nouvelle. Il y avait aussi l'attrait des religions à mystère dont nous venons de parler, dont les manifestations désordonnées risquaient de se reproduire dans les assemblées chrétiennes. Nous savons, grâce au récit du livre des Actes des Apôtres, que la communauté de Corinthe avait accueilli un prédicateur chrétien de valeur en la personne d'Apollos. juif alexandrin relié à la foi nouvelle, qui, à Éphèse, avait été définitivement converti au Christ par Aquila et Priscille, et muni par eux de lettres de recommandation lorsqu'il partit pour Corinthe. Il fut d'un grand secours pour la communauté, en particulier dans les controverses avec les Juifs. On conçoit dès lors qu'un parti se soit formé, se réclamant de lui et se posant en rival du groupe de fidèles qui se prétendaient disciples de Paul. À ce parti d'Apollos s'opposait le parti de Paul, celui de Céphas et même le parti du Christ. Cet état alarmant de la communauté avait dû parvenir à la connaissance de Paul lors de son séjour à Éphèse au cours de son troisième voyage, ce qui nous est rapporté dans Actes 19. Et il avait eu d'autres nouvelles inquiétantes. Le cas d'un incestueux qui vivait avec sa belle-mère, les procès que se faisaient mutuellement les chrétiens devant les tribunaux païens, des cas de débauche, des désordres dans la célébration de l'Eucharistie et dans les assemblées liturgiques, des erreurs doctrinales concernant la résurrection des morts. Et c'est à cette communauté que Paul adresse les paroles que nous avons lues à la fin du paragraphe que je vous ai lu tout à l'heure. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix? Vous donc courez comme lui pour gagner. Courez, courir. C'est mon sujet de ce matin. Ne savez-vous pas que les athlètes courent pour gagner le prix? C'est une image, bien entendu. La course dans le stade est une compétition. Il y a la course, il y a le but, il y a la course et la manière de courir, il y a la course et le résultat, la récompense pour le vainqueur. Je me souviens d'une époque où, en entendant les commentateurs parler du match du Nîmes Olympique, disaient « Ils ont perdu, mais qu'est-ce qu'ils ont bien joué ?» L'essentiel, c'est de participer, disait Pierre de Coubertin, pour les compétitions sportives. C'est la consolation des vaincus. C'était le sang du sport relativement désintéressé. Il est important de savoir reconnaître que d'autres sont plus forts que nous ou meilleurs que nous. Il faut savoir perdre. Il faut savoir accepter la défaite, ce n'est jamais facile, et en tirer les leçons sans se chercher des excuses. Mais le problème de l'argument démobilisateur, c'est qu'il n'incite pas à donner le meilleur de soi-même. À souligner l'importance du moral, de la motivation, de la volonté et du mental. Pour les fortifier, il y a toutes sortes d'exercices et même de thérapies. Aujourd'hui, dans les compétitions sportives, il faut être solide pour résister aux pressions de la gloire, de l'argent et des médias. Courir pour gagner. Courez pour gagner, dit l'apôtre à ceux auxquels il écrit. L'apôtre ne veut évidemment pas dire que parmi la multitude des chrétiens, un seul sera sauvé. Bien sûr que non. Ce n'est pas ça le sens du texte. Le sens de l'image, c'est que pour réussir la carrière chrétienne, il faut travailler, mettre en œuvre son salut, pratiquer les bonnes œuvres et avoir un témoignage cohérent, conséquent, avec la même énergie, la même résolution, la même détermination pour parvenir au but que l'unique vainqueur pour gagner la course. Tel est, me semble-t-il, le sens de cette image qui est donnée par l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe. Le but, c'est de faire ce que le maître demande. Le but, c'est d'avoir son approbation sur notre vie. Le but, c'est de recevoir, comme c'est rapporté dans la parabole des talents, l'approbation pour ceux qui ont fait fructifier leurs talents. Ils ont reçu l'approbation du maître, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, tu recevras beaucoup. Le prix, c'est la joie du Seigneur d'avoir accompli ce qu'il nous demande. Le prix, c'est la sainteté. Nous sommes transformés à son image. Cette exhortation s'adresse aux Corinthiens qui étaient amis de leurs aises, opiniâtrement attachés à leur indépendance, à leur liberté, à leur roi. Pour remporter le prix, il ne suffit pas de courir, il faut bien courir. Quelques mots sur la discipline de l'athlète. Il y a la préparation, l'entraînement et le déroulement. Les règles sont précises. Il y a une discipline de vie dans tous les domaines, alimentation, sommeil, exercice, etc. C'est chaque fois un choix personnel et chaque athlète a à s'imposer sa propre discipline. Ici, il y a un parallèle important à faire avec le chrétien. Sa discipline de vie, son autodiscipline joue un rôle essentiel. Voir tous les textes qui parlent de la maîtrise de soi, de la tempérance, comme source de tous les possibles. Les athlètes qui se préparaient pour les Jeux de la Grèce avaient 10 mois de préparation. Au bout de la course, la récompense pour le vainqueur, c'était une couronne. Vous savez en quoi elle était cette couronne ? Elle était en persil au début, et après en pain. Payenne, hein ? C'était donc une couronne qui ne devait pas tenir très longtemps. La couronne du chrétien ne se flétrira jamais. La discipline pour l'apôtre Paul. Il sait où il va. Son but est clair. Sa ligne de conduite est bien définie. Il veut agir pour que le plus grand nombre possible de ceux qui le voient vivre et qui entendent son enseignement soient gagnés à l'Évangile. C'est le but de sa vie. C'est « Je fais tout à cause de l'Évangile », dit-il, « afin d'y avoir part. » À chacun de nous de l'adapter. En fonction de la culture, de la mentalité, du milieu, des circonstances qui sont les nôtres. Toujours pour manifester la bonté, l'amour comme fruit de l'œuvre de l'Évangile en chacun de nous. Paul, dans sa mission spécifique, a dû assumer des renoncements, même à des droits légitimes, mais en pleine liberté, par choix personnel, sans que rien ni personne ne lui impose cela de l'extérieur. Il faut ici dire un mot. Est-ce que la vie ascétique, comme objectif, comme discipline, serait un idéal de vie. Ce n'est pas ce que j'ai compris dans le texte de l'apôtre Paul. Je réponds non, sans hésiter. Paul plaide avec force pour la liberté du chrétien et pour sa propre liberté. La seule chose qui le préoccupe, c'est le bon usage, l'utilité de cette liberté. Elle ne doit pas servir de prétexte à la licence, au laisser-aller, ou n'importe quoi. Elle ne doit pas servir d'argument pour écraser le faible. L'amour est supérieur à la liberté. Le but premier de cette discipline, c'est ce qui rapproche de Dieu. Le renoncement n'est jamais une vertu en soi. L'apôtre Paul dit aux Colossiens, « Vous êtes morts avec le Christ à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Pourquoi donc vous impose-t-on des règles du genre « ne prends pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela » Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on en aura fait l'usage? Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains qui n'ont aucune utilité. Ce n'est pas cela. L'essentiel, le but clair, c'est de marcher selon la foi de l'Évangile. C'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est de recevoir du Seigneur cette approbation. « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle un peu de choses. On te confiera beaucoup. » C'est ce principe général qui détermine l'essentiel de tout le comportement du chrétien. Quelques mots encore sur la course du chrétien. Et c'est avec la course du chrétien que nous conclurons notre propos. Nous avons lu au début dans Ésaïe au chapitre 40, ces forces renouvelées de ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Dans un autre texte de la lettre aux Galates, l'apôtre Paul dit à ces chrétiens qui, semble-t-il, s'étaient arrêtés dans leur course, dans leur marche de chrétien. « Vous couriez bien, » leur dit l'apôtre Paul. « Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Vous avez cédé à une mauvaise influence, leur dit-il, à ces chrétiens des Galates. La manière de courir, l'apôtre Paul dit dans la lettre aux Philippiens, « Je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue de courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Jésus-Christ s'est saisi de moi. » Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix que Dieu, du haut du ciel, nous a appelés à recevoir dans l'union avec Jésus-Christ. Heureux ceux qui placent en Dieu leur appui ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Leur force augmente pendant la marche. C'est dans le psaume 84. Dans notre union avec Jésus-Christ, nous sommes appelés à continuer la course, à la continuer jusqu'au bout, à la continuer avec persévérance. Et je voudrais lire en conclusion ces paroles que nous trouvons dans la lettre aux Hébreux au chapitre 12, au début du chapitre 12. Ce sera la parole que je lirai en conclusion de notre propos. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. C'est notre sujet pour aujourd'hui. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Les yeux fixés sur Jésus. Amen.